Can we please get seated?
Très bien, veuillez prendre place, nous allons recommencer notre travail. Patrick Wallström au micro.
So,
Patrick Wallström au micro. Donc, bienvenue à nouveau à notre séance de travail. Veuillons poursuivre. Nous avons quelques questions de Mohamed à envoyer ses vêtements et ses bagages partout dans le monde. Il a dû aller acheter de quoi s'habiller. American Airlines l'a envoyé dans une autre ville américaine, mais il était habillé quand même, je l'ai vu, je l'ai croisé, il avait trouvé de quoi s'habiller. Bon, je ne vais pas continuer sur cette lancée. Élise, vous avez la parole, Élise Guérich. Oui, je voulais fermer... une action que nous avions décidée au numéro 1 sur la diversité géographique du conseil d'administration, c'était le numéro 50. Nous sommes d'accord pour que cela ait été réglé par la communauté. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous tous, nous allons regarder ce premier diapo transparent et voir tout ce qu'il y a dessus, c'est des points qu'on n'a pas besoin de gérer. Donc il faut continuer à y réfléchir. Donc moi j'ai fait un petit peu l'aller-retour et je crois qu'on va continuer notre travail. Ce n'est pas du tout gelé, donc en effet c'est très bien de pouvoir laisser ou mettre sur la diapo 1 ces points. Donc continuons. Avec Joe qui a la parole. Merci beaucoup, Joseph. Oui, nous avons donc des diapositives à vous présenter. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine. Oui. Donc... voilà, merci, voilà. Non, c'est pas ça. C'est la suivante. Voilà, Critérium TIA, soutien pour le modèle multipartite. Donc, on a mis des numéros parfois un petit peu approximatifs, des chiffres approximatifs. Donc, si l'on suppose, nous avons un pourcentage assez important. Donc 80% qui sont en faveur de cela, plus ou moins 80%. C'était une proposition où il y a des commentaires favorables au point de vue général, et puis c'était de moins en moins favorable. Il y avait quelques questions défavorables, mais individuelles. Mais il y a eu moins de personnes qui ont commenté. Il y a eu le concept en général, où c'était plutôt favorable, et puis des questions parfois où les réponses ont été plus négatives. Donc, la majorité, au niveau de la majorité, qui ne soutient pas le modèle multipartite, est-ce que cela soutient le modèle multipartite, est-ce question de l'inclusion. Une partie de cette question, c'était sur les dynamiques de pouvoir dans la communauté, la représentation de toutes les parties prenantes, et la définition du modèle multipartite, la définition de ce qui est perçu au niveau de l'NTIA, ce que ça veut dire, le modèle multipartite. Il y a eu des commentaires en ce sens. La communauté n'a pas encore beaucoup participé. Il y a des inquiétudes. Des parties de la communauté auront plus de mal à, en raison de problèmes linguistiques, de barrières linguistiques, culturelles, géographiques, de distance, auront plus de mal à participer. Donc, est-ce que vous voulez partager plus? Là, je vois sur l'écran. Oui, très bien. Alors. Donc, on avance assez vite. Donc, sur la gauche, vous avez le texte que j'ai envoyé par courriel. Je vais revenir là-dessus. Nous avions les questions sur la droite. Alors, la société civile, les universitaires, et ainsi de suite, ont souligné que c'était les questions qui étaient soulevées auparavant. Nous avons pris cela en compte, nous avons envoyé cela à la communauté, et nous avons eu un retour. Il y a eu des déclarations de processus supplémentaires non nécessaires. C'est là où on a étoffé un petit peu ces points. Et pour les clients mondiaux, c'est le concept de l'inclusion, ça. On peut dire que c'est une question sur l'inclusion, en fait, je crois. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, les critères NTIAE, maintenir la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS. Donc, ce qui a été bien capturé, c'est l'inquiétude de certains sur l'aspect unilatéral, avoir un système parallèle, un DNS parallèle. Quelques commentaires ont été en ce sens. Et cela dépend si cela soutient bien les responsabilités et la responsabilité de l'ICANN. C'est une question de dépendance qui pourrait avoir un impact sur la sécurité et la stabilité. Et deux autres points qui ont été mentionnés dans plusieurs commentaires. C'était les fonctions de la zone racine, parce que plusieurs personnes avaient l'impression que si on ne gérait pas bien les problèmes de la zone racine, eh bien là, il y aurait évidemment un problème pour la sécurité, la stabilité, la résilience du DNS et de l'Internet. Donc ça, c'est pas mis sur l'écran, mais on l'a lu dans certains commentaires en rapport avec la sécurité et la stabilité. Passons à la diapo suivante, merci. Répondre aux attentes des partenaires et des clients de YANA. Donc ça, c'était pas très clair. Il y avait parfois un petit conflit à ce niveau, donc les réponses n'ont pas toujours été claires. Donc ce problème n'a pas été bien déterminé, en fait. La plupart des personnes répétaient quelque chose qu'ils avaient déjà dit, ils se justifiaient. C'est vrai également pour la question de l'ouverture. Dans de nombreux cas, les personnes se répétaient et reparlaient une nouvelle fois de sécurité, la stabilité, la résilience de l'Internet. Donc ces deux questions n'étaient pas nouvelles. En majorité, c'était positif, mais il y avait quelques préoccupations sur l'ouverture et par rapport aux attentes. Passons à la diapo suivante. Ça, c'est l'ouverture, l'aspect ouvert, le caractère ouvert de l'Internet. Ça, c'était plus large comme question. C'était intéressant parce que il y avait des gens qui étaient inquiets que de rester aux États-Unis pourrait créer un risque de déstabilisation si les États-Unis intervenaient. Et il y avait une inquiétude également d'un seul commentaire, je crois, que le PTI pourrait essayer de devenir une organisation intergouvernementale. Vous savez, il y a beaucoup de points de vue hypothétiques, hein. Oui, oh, une organisation internationale, pas intergouvernementale. Ajoutait Alyssa Cooper. Oui, en effet, c'est le rôle au niveau législatif du gouvernement américain qui se posait. On a déjà eu beaucoup de réponses à ce sujet avec Cavus, le rôle du GAC dans le CSC et les CCTLD, les propriétaires des CCTLD, le fait que l'ICG ne demande pas une immunité juridique et qu'il puisse y avoir des interférences gouvernementales, je ne sais pas sur quelle base juridique on pourrait résoudre cela. Ceci dit, voici les commentaires. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est de résumer un petit peu ces réponses avec un texte. Je crois que ça peut être utile de voir cela. Donc, s'il vous plaît, mettez-le sur l'écran de gauche pour que nous puissions observer ce texte. Alors, on dit 75%, c'est des chiffres approximatifs. Donc, lorsqu'on parlait de cela, on se disait que ça serait bien d'avoir une description des réponses sans que ce soit trop spécifique. Donc, vous l'avez reçu par email, on vous l'a envoyé, vous l'avez à l'écran. Il y a une affirmation générale de la proposition. Je crois qu'on peut éliminer les 75%. 75% donc soutenaient la proposition. Descendons un petit peu, s'il vous plaît. On a parlé de l'inclusion. Et là, on parle des inquiétudes sur la définition du multipartisme dans le cadre de l'agenda de Tunis, les inquiétudes sur les processus communautaires pour l'inclusion formelle. Donc, la question, c'est comment gérer cela? Comment gérer ces réponses? Moi, j'essayais de trouver des réponses. Moi, quand on veut parler section par section, on peut analyser ça comme ça, parce que l'inclusion, c'était une des sections. Mais en ce qui concerne l'inclusion, mis à part, je crois, la participation mondiale, c'était une inquiétude, je crois que toutes les questions avaient été répondues par les processus communautaires, ou s'ils n'avaient pas une définition du modèle multipartite dans le cadre de la NTIA. Donc je ne vais pas m'inquiéter des textes et du libellé, on peut y travailler en ligne. Mais la question de l'inclusion, c'était, même si cela était géré par la communauté, pour information, on peut dire à la communauté que les inquiétudes sur la participation mondiale basée sur les problèmes de barrières linguistiques, culturelles, frais de déplacement, éloignement géographique, on en a déjà parlé, on a déjà essayé de régler cela au niveau des communautés. Mais je pense que lorsque l'on parle des problèmes d'inclusion, il faut être sensible à cela. Je n'étais pas conscient du fait qu'on a déjà beaucoup parlé de cela dans le cadre des processus des communautés, mais j'aimerais parler de l'inclusion. J'aimerais que, mesdames et messieurs, vous puissiez vous exprimer sur le sujet de l'inclusion. Et Mon ordinateur est un petit peu endormi, donc si vous avez vos ordinateurs, si vous levez la main sur l'ordinateur, ça va, je ne vais pas le voir, donc dites-moi si vous voulez prendre la parole. Donc maintenant, silence, ça veut dire approbation, n'est-ce pas? Donc, je n'entends pas d'objection. Personne ne soulève d'objection, donc cela ressemble fort à une approbation. Question précise. Est-ce que vous savez s'il y a des questions sur la participation mondiale, des inquiétudes sur la participation mondiale, si on en a parlé, de cette inclusion, de ces barrières linguistiques, culturelles, l'éloignement géographique, et ainsi de suite? Alicia Cooper, les critères de la NTIA, il faudrait que je revienne un petit peu là-dessus, mais si je me rappelle bien, la proposition est basée sur le modèle multipartite. Garde ce modèle multipartite. Mais est-ce que ça veut dire que le processus a été multipartite? Est-ce qu'on a inclus un maximum de personnes? De quel processus avons-nous utilisé? Donc ces personnes ont fait référence au processus de développement d'une proposition. Et je ne crois pas qu'on devrait mettre l'évaluation de nos réponses dans cette réponse. Je crois qu'il faut qu'on se penche sur les critères précisément. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, alors la question c'est quelle est la séparation, comment en effet capturer cela? Oui, nous avons absolument besoin. Dans la partie zéro ou dans un résumé, de capturer les plaintes sur le processus et de répondre aux questions que vous avez posées. C'est Elise Cooper au micro. Est-ce qu'il y a eu des plaintes auprès des OC? Nous devons expliquer la manière dont nous avons géré ces commentaires. Je ne crois pas que ces explications vont être dans le même endroit que les critères que nous allons commenter. Je suis d'accord pour dire que le concept de ne pas agir peut être utilisé. Et nous avons Joseph au micro. Je crois que dans le document de résumé, si une question a été posée, même de manière incorrecte, le concept, c'est qu'un document de résumé ne va pas être mis sur la partie zéro. C'est la manière dont nous traitons les questions soulevées. Questions soulevées dans un contexte parfois incorrect. Ce qui pose problème, ce que je pense pouvoir faire, et j'arrive aux mêmes conclusions, c'est qu'il n'y a pas d'action à prendre par rapport à ces items parce ne font pas partie de cette partie du processus multipartite. Et on n'a pas proposé d'action, en fait. Mais est-ce qu'on pourrait trouver une autre manière de gérer ces questions? Où les gère-t-on? Où en parle-t-on? Dans la partie résumée, dans la partie zéro? Oui, Alissa Cooper, je crois qu'on doit en parler dans le document de résumé, absolument. Mais puisque je suis au micro, Alissa Cooper, on peut dire assez précisément, me semble-t-il, que nous avons évalué l'ouverture et l'inclusion du processus. Nous avons eu des commentaires, nous avons reçu des commentaires sur ces processus. Et je crois qu'on peut dire véritablement qu'il n'y a pas de limite aux efforts de la collectivité pour qu'on ait un processus des plus ouverts. Nous avons reçu que peu de commentaires avec des plaintes. Je crois que nous avons observé une large participation, donc je crois que le processus était ouvert et inclusif. C'est ma conclusion. Donc, vous allez donner la parole à d'autres personnes ? Oui, je vois des personnes voulant s'exprimer. Merci, merci Joe. C'est Rismondi au micro. Une petite suggestion. On peut assumer que nos processus et les autres processus des OC, des communautés opérationnelles, étaient tout à fait ouverts et ils étaient aussi inclusifs que possible. Parce que, en tant que concepteur de cela, on ne peut pas garantir que tout le monde a été présent. Donc, on a inclus toutes les personnes qui se sont présentées. Mais les personnes qui ne sont pas venues, évidemment, ces personnes étaient absentes et on ne peut rien faire. Donc, ouverture, inclusion, absolument, pour toutes les personnes qui se sont présentées. Mais, toutes les personnes se sont-elles présentées ? Telle est la question. D'autres commentaires ? Très bien, donc nous allons descendre un petit peu sur ce document et on va mettre les deux écrans, l'écran de droite et l'écran de gauche, un petit peu au diapason pour que l'on couvre les deux mêmes thèmes sur ces deux écrans. Donc, nous allons maintenant parler de stabilité et de sécurité de l'Internet. Voilà, très bien. Donc, sécurité et stabilité, on a indiqué qu'il y avait quelques points qui n'avaient pas été capturés sur la droite. J'ai essayé de les noter. Donc, c'est une hypothèse. Je crois que la question de la juridiction qui se posait, de risque de fragmentation, ça n'a pas été beaucoup répété dans les commentaires. Arriver à des actions, pouvoir faire respecter les règles, c'est les problèmes juridiques qui vont se poser lors de la mise en place. Les pistes de travail également vont se pencher là-dessus, elles se sont déjà penchées là-dessus. Et enfin, l'impact de la séparation entre plusieurs opérateurs va-t-il avoir un impact sur la sécurité et la stabilité ? Ça dépend de ce que nous décidons. Si l'on renvoie des questions de ce type, collectivité, commentaires sur la séparation, et nous allons voir si nous transmettons ou pas, pour plus de débats, ces questions. Problème de zone racine également. Il y a parallèlement une piste de travail sur la zone racine et sa maintenance. Donc, c'est le processus dont parlait Milton, sur lequel il travaille. Et pour moi, la stabilité et la sécurité, pour clarifier les choses, il y a une séparation. Il y a des processus parallèles pour les zones racines. Mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé des problèmes qui se posaient au niveau de la sécurité et de la stabilité. Donc il n'y avait pas de nouvelles actions à prendre en rapport avec la séparation et la RZM. Donc si quelqu'un veut prendre la parole.
Okay, the production of a song.
Très bien. Rasmandi, je pense que le résumé, c'était pour inciter le débat, non pas pour ne pas en avoir un. Oui, j'aimerais ajouter un élément, dit Rasmandi. J'ai une question par rapport au point A. Vous parlez de la PTI, du processus de séparation, de la maintenance de la zone racine. Et ici, on parle des différents types de questions liées aux commentaires qui ont été faits. Quand on parle de la PTI et du processus de séparation, devons-nous penser qu'il s'agit de sujets qui sont liés aux sujets que nous avons traités ce matin ? Et à ce moment-là, la séparation fonctionnelle par rapport à la zone racine, nous en avons parlé ce matin. Joseph Aladef Omicron, à chaque fois qu'il y a eu un commentaire et qu'il y a eu une plainte par rapport à un élément, ils ont parlé de la stabilité, de la sécurité de l'Internet. Donc il n'y avait pas forcément un lien par rapport à la façon dont cela était lié, mais cette question de la stabilité a été évoquée à chaque fois. Donc quand on parle de la PTI, bien sûr, on devrait peut-être approfondir cette question parce que certains gens pensaient que les éléments structurels de la PTI pourraient créer des problèmes au niveau de la sécurité ou de la stabilité. Mais ces questions ont été, d'une manière ou d'une autre, abordées dans les différentes communautés. Et notre réponse consisterait à dire s'il faut compléter ou non ces questions par rapport à leur lien avec la stabilité et la sécurité. Alyssa Cooper ? Alyssa Cooper au micro. Je pense que notre évaluation par rapport aux critères de la proposition sont couverts par tous les sujets que nous avons traités jusqu'à maintenant. Je ne pense pas que l'on ait grand-chose à ajouter. Bien sûr, on a parlé de la maintenance de la zone racine, de processus de séparation, de la PTI. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à ajouter, à part ce que l'on a dit. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ces éléments peuvent porter préjudice à la sécurité, stabilité, etc. Mais il faut expliquer à la NTIA comment la proposition répond aux critères qu'ils ont établis. Joe Aladef, et à ce moment-là, il faut mettre en rapport cela avec les autres sections. Cavus prend la parole. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Joe. En lisant les commentaires, je vois que quand le commentaire n'a pas d'argument valable ou valide, il évoque la question de la sécurité ou la stabilité. Donc je ne pense pas vraiment que cela doive faire l'objet d'un débat. Joe Aladef, merci beaucoup. Pouvons-nous faire défiler le texte sur l'écran, s'il vous plaît? On parle maintenant du rôle des gouvernements. Les questions ne sont pas dans l'ordre, parce que j'ai pensé que l'ouverture et les attentes sont liées à beaucoup d'autres commentaires aussi. Mais le rôle des gouvernements était associé à un certain nombre de commentaires. Il y a eu des commentaires par rapport au rôle de gouvernement qui est très contraignant, qui est très réduit. Des inquiétudes par rapport à la juridiction. Il y a eu des commentaires qui parlaient d'améliorer ou de renforcer le rôle du GAC et des titulaires des CCTLD. Dans le CSC, on parlait aussi du manque d'immunité. Je ne pense pas que l'on puisse envisager toutes les hypothèses. Et nous ne voyons pas en quoi nous devrions agir par rapport à ce point. Par exemple, tout ce qui a trait au rôle du GAC, je pense qu'il y a des précisions qui rejoignent des demandes de clarification qui ont été demandées dans d'autres commentaires. Mais le point commun, c'est que cela relève d'un processus multipartite et non pas d'un processus intergouvernemental. Je crois que j'ai Daniel et puis Cavus. Daniel Carambert prend la parole. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite, à savoir que la sécurité et la stabilité semblent être évoqué de manière très générale dans beaucoup de commentaires. Néanmoins, je ne pense pas que nous, en tant que ICG, nous puissions dire que ce n'est pas pertinent, que le fait d'évoquer la sécurité et la stabilité ne soit pas pertinent dans tous les cas. C'est pourquoi je propose de dire très clairement que nous avons pris pris en compte les références à la stabilité et à la sécurité à chaque fois qu'elles étaient suffisamment concrètes et liées à un problème en particulier. Quelque chose dans ce genre pour nous assurer que nous ne passons pas à côté ou n'ignorons pas des questions qui ont été soulevées. Je veux dire par là que si nous devons dire quelque chose à ce propos dans notre document, certains commentaires font référence à la sécurité et à la stabilité et nous pouvons en tenir compte seulement s'il explicite pourquoi ils font référence à la stabilité et à la sécurité. Joe Aladaf, oui, je pense que j'ai bien compris. Cavus au micro. Merci, Joe. Je pense que une partie de ces commentaires sont liés aux activités du CCWG qui sont en cours, en discussion. Le GAC n'a pas encore décidé s'il va participer au vote. C'est encore en cours. L'ICANN a proposé une autre méthode, MEM, qui peut tout changer. Donc il n'y a pas de définition là-dessus encore. Et en ce qui concerne la PTI et les organisations internationales, pourquoi y a-t-il cette crainte? Je ne pense pas que cette crainte soit fondée. Donc ce n'est pas une réponse que l'ICG doit donner, mais je ne pense pas que cet argument soit valable. Certains arguments qui sont avancés ici ne sont pas valides. Joe Aladaf, j'avais dit avant qu'on ne peut pas évoquer toutes les hypothèses possibles parce que il faut être plus spécifique. Si les gens le souhaitent, il faut traiter les questions qui sont spécifiques. En ce qui concerne la PTI, nous pourrions donner des précisions par rapport au GAC et par rapport au vote. Je pense que ces documents, on pourrait essayer donc d'obtenir davantage de précisions à partir de ces documents et adapter notre réponse à ces commentaires qui ont été faits. Russ Mandy prend la parole. Vous avez bien utilisé votre panneau, hein? Martin Boyle prend la parole. Oui, je fais ça parce que sinon, le panneau retombe à chaque fois. J'ai deux commentaires. Tout d'abord, puisqu'on parle du rôle des gouvernements, je vais parler d'abord donc de cette section. Je pense que ce que ce texte ne reconnaît pas, c'est qu'il y a eu un grand nombre de commentaires que j'ai lus. Qui ne venaient pas de gouvernement d'ailleurs. Et ces commentaires disaient que les gouvernements ont un rôle à jouer en tant que partie prenante dans l'environnement, dans l'écosystème multipartite. Et je pense que ce texte n'en tient pas compte, parce que tous les commentaires n'ont pas été négatifs par rapport au rôle des gouvernements. Je pense qu'il serait peut-être utile d'inclure donc ces aspects. Je ne me souviens pas exactement du numéro de commentaire. Ma deuxième remarque concerne la stabilité et la sécurité, il y a deux points dans ce texte où l'on parle de revenir à la communauté pour obtenir des réponses. Et dans ces deux cas, je ne pense pas qu'il y ait eu un si grand nombre de commentaires pour que ça vaille le coup de revenir vers les communautés, à moins que l'on puisse identifier ce que l'on veut que la communauté nous dise. Autrement dit, il faudrait savoir ce que l'on veut obtenir comme réponse de la communauté avant de leur poser la question. Donc je pense que la question est un peu trop générale. À partir des discussions que l'on a eues, y compris la question de la séparation comme un mécanisme qui peut préserver la sécurité et la stabilité, parce qu'en cas de défaillance de l'opérateur, il faut les remplacer. Je pense que par rapport à ces deux questions, il faudrait mieux préciser quelle est la réponse que nous souhaitons obtenir de la communauté. Autrement, notre question sera trop générale et la réponse que nous allons obtenir le sera aussi. Joël Adef, au micro. Je pense que pour cette question, nous devons travailler en coopération. Il y a un groupe qui va s'occuper de la question de la séparation. Et donc, nous pouvons donc préciser notre question en travaillant en coopération avec le groupe qui va s'occuper de la question de la séparation. Je ne voudrais pas qu'on se répète à plusieurs endroits de notre document. Alors, nous allons donc considérer cela comme l'endroit où l'on va traiter cette question, sachant que ces questions sont traitées ailleurs, peut-être. Et c'est là où l'on pourra inclure le texte spécifique. Si vous êtes d'accord, nous allons donc considérer ces espaces comme des espaces réservés à certaines questions particulières. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura peaufiné notre question, nous pourrons donc décider de laisser ou non ces espaces. Merci. Et je vais bien entendu inclure la question que vous avez soulevée par rapport au gouvernement, parce que il y a eu des déclarations par rapport au fait que les gouvernements avaient un rôle à jouer, et cela peut être inclus ou considéré à la lumière des critères de la NTIA. Merci. Bruce Mundy prend la parole. Je voulais aborder la même question en ce qui concerne le rôle des gouvernements. Il a été mentionné que c'était quelque chose de positif. Si cette implication des gouvernements était positive, je pense que cela respecte les critères, car il y a une espèce de tension entre ce qu'on attend des gouvernements et la façon dont cela doit être traité. Donc le rôle des gouvernements est nécessaire, mais cela doit faire partie du processus multipartite. Un autre point concerne la question de notre demande de commentaires. Il est difficile pour nous parfois de consolider les commentaires concernant le processus dans son ensemble, car nous ne savons pas toujours comment relier les différents contenus aux différentes communautés opérationnelles. Et une possibilité pour l'ICG serait de pouvoir faire des déclarations par rapport à la façon dont nous voyons les critères de la NTIA. Et cela pourrait nous aider à répondre à certains commentaires qui ont été formulés. Joseph, à l'ADEF, au micro. Il y a beaucoup de commentaires qui commence en disant « Nous croyons que l'examen de l'ICG par rapport aux critères de la NTIA a été correct. » Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est là où nous avons un mandat un peu plus large, si nous pensons qu'il y a des éléments de notre proposition qui devraient être mis à jour ou clarifiés. Je dois dire qu'après avoir examiné ces commentaires, de révision de commentaires, de révision des sources, je pense que la plupart des commentaires ont été révisés et l'on peut conclure que nous n'avons pas d'action à prendre par rapport aux critères établis par la NTIA. Je pense que c'est un domaine où nous devons analyser aussi des thèmes plus spécifiques et faire des références croisées. Par exemple, pour ce qui est de la question du GAC, nous pouvons le souligner en jaune, sachant que nous allons résoudre ces questions en regardant le texte qui figure dans d'autres sections et en créant des références croisées par rapport aux réponses qui peuvent figurer dans la section de la PTI, par exemple. De cette manière, on peut arriver à avoir une réponse cohérente. Ross, Milton et puis Alissa. Milton Mueller prend la parole. Je voulais remettre un petit peu en question ce changement qui a été proposé par Martin et Ross. Je ne suis pas tout à fait sûre de la pertinence de cette question. La question est simple. Est-ce que la proposition répond aux critères de la NTIA par rapport au rôle des gouvernements? Nous devons dire oui ou non. Il est vrai que certains commentaires disent non, cela ne doit pas être remplacé par un rôle de gouvernement parce que les gouvernements doivent agir sur un pied d'égalité avec les autres parties prenantes. Soit, mais je ne pense pas que l'on doit élaborer davantage. Je pense qu'il faut tout simplement répondre à la question. Joe Waladaf prend la parole. Je vais essayer de répondre à Milton et puis je vais donner la possibilité aux auteurs de la suggestion de répondre. Mais je ne pense pas. Pardon, je pense qu'il faudrait que ce ne serait pas négatif d'ajouter cette précision par rapport à la participation des gouvernements. Parce que je pense qu'il y a une certaine confusion par rapport à la présence des gouvernements. Il y a des gens qui pensent que la seule présence des gouvernements peut créer un conflit. Milton Mueller, où est-ce que cela est dit que la présence des gouvernements pourrait créer un conflit? Joe Waladaf, je pense que c'est une confusion qui est sous-jacente à certains commentaires. Milton Mueller, presque tous les commentaires disent qu'il n'y a pas de conflit. Si vous pensez qu'il y a un conflit, dans la plupart des commentaires, le problème concerne peut-être le gouvernement des États-Unis. Voulons-nous dire que c'est bon que les États-Unis soient encore impliqués, même s'ils ne contrôlent plus la zone racine? Je pense que la meilleure façon, c'est de répondre à la question de manière simple. C'est tout simple. La plupart des gens disent non, il n'y a pas de conflit. Il y a des commentaires par rapport au rôle des gouvernements. Mais je ne sais pas. Essayons de faire les choses simples, de rester simples. Joe Waladaf, nous avons Alissa, Martin. Est-ce que vous voulez participer? Martin Ball, ouais, je vais y participer. Joe Waladaf, il lève pas le panneau, mais il lève sa main. C'est très bien. Je vais donner donc la parole à Martin, puis Cavus, et puis Daniel. Alyssa. Alyssa Cooper, je veux répondre à quelque chose que vient de dire Ross. Par rapport aux propositions individuelles qui ne s'occuperaient pas spécifiquement de certains de ces aspects. Donc la proposition... Je voulais simplement dire qu'il y a des éléments qui figurent déjà dans les propositions et que nous avons dans les textes que nous avons donc pris des propositions. Cela est déjà écrit dans les propositions, ce qui est bien. Pour répondre à Milton, aux commentaires de Milton, je suis d'accord. Nous devrions nous en tenir aux faits, mais je pense aussi qu'il serait raisonnable, pour répondre à cette question ou ailleurs, que nous expliquions un petit peu quel est le rôle des gouvernements plutôt que quel n'est pas le rôle des gouvernements. Je pense que ce serait une façon de répondre à des questions que les gens peuvent se poser. Par exemple, quel est le rôle des gouvernements des États-Unis ? Et cela au-delà du critère de la NTIA. Je pense que ce serait acceptable d'expliquer un petit peu comment participent à ce processus les gouvernements, parce que les gens sont curieux par rapport à cela.
Merci. Martine ? Oui, merci beaucoup, Joa. Je ne sais pas si je voulais intervenir ou pas, je me posais la question. Je crois que vous avez déjà abordé ces points. Mais comme réponse directe à Milton, oui, il y avait des commentateurs qui se sont concentrés sur le rôle du GAC, par exemple, et un rôle accru du GAC. Donc on prend quelques commentaires uniquement, un petit nombre de commentaires qui parlent d'un point très précis, très spécifique, d'engagement des gouvernements dans le processus. Mais il y avait d'autres commentaires qui ont rendu bien clair que l'engagement des gouvernements dans le processus était en fait un point très positif sur lequel on pouvait construire et non pas un problème de domination qui posait un problème aux critères de la NTIA. Et cela ne représentait pas une solution menée par les gouvernements. Il était clair qu'on ne voulait pas d'une solution avec une procédure gouvernementale. Et donc, si nous allons avoir des commentaires qui sont précisément sur ces points, eh bien, est-ce que cela va vouloir dire que les gouvernements vont être totalement chintés du système et qu'ils vont être mis à l'écart du système ? Parce que moi, je crois qu'il y a un aspect positif à un certain niveau dans la participation des gouvernements au processus. Et les commentaires que j'ai lus me semblent n'étaient peut-être pas au bon endroit. Merci. Oui, Joe, avant de poursuivre, j'aimerais dire que Alyssa avait essayé de donner un petit peu d'espoir. C'est un cycle continue et ce cycle, ce loueur d'espoir, c'est de trouver un endroit dans le document pour parler du rôle des gouvernements étant légitime en tant que partie prenante, en tant qu'acteur. Cela permettrait de satisfaire un petit peu tout le monde. Pour revenir sur ce qu'a dit Milton, « je crois, Martine, que nous clarifions la position, quelque chose qui est déjà dit de manière très positive, dans notre, de manière très factuelle, en fait, dans notre document. Donc, je crois que c'est une solution possible, mais j'aimerais revenir aux interventions. Cavus a la parole. Oui, Joe, je soutiens beaucoup la position de Milton. Nous devons éviter toute sympathie ou antipathie par rapport à une partie prenante. Qu'ils aient un rôle positif ou négatif, il faut répondre à la question. J'ai lu 37 des 47 commentaires. Plus de 80%. Je crois qu'on est très démocrate. On ne peut pas aller plus loin que cela. Je crois que la réponse doit être oui ou non. Et je crois que dans ce cas, la réponse est oui. Parce que si on commence à dire oui, c'est un rôle positif ou un rôle négatif, on n'a pas à statuer là-dessus. Soyons neutres. Minimisons les commentaires sur la NTIA, sur les procédures NTIA. Je crois qu'il faut être d'accord avec moi. Ce n'est pas à l'ICG de redéfinir ou interpréter les critères de la NTIA. C'était leur critère. Notre rôle, c'est de dire oui ou non par rapport aux commentaires que nous avons reçus. On a reçu énormément de commentaires, mais c'était ouvert à toutes et à tous. Donc, je préférerais l'approche de Milton, oui ou non, sans expliquer. Plus on a de détails, plus on aura de difficultés à l'avenir et de critiques à l'avenir. Michael ? Oui, merci. Eh bien, je comprends bien les points de vue qui ont été soulevés et l'esprit de ce que nous a dit Martine. Et je ne crois pas qu'on doit réinventer la roue. Je crois que les gouvernements ne sont pas présents dans ce domaine et on ne doit rien réinventer. Je crois qu'il faut être très clair par rapport aux commentaires. Je suis d'accord également avec ce qu'a dit Alissa, sa proposition. J'ai un problème pratique un petit peu que je me pose. Est-ce que c'est lisible tout cela ? Nous avons un texte où l'on parle d'immunité au niveau juridique notamment. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la question, l'immunité de qui ? On parle de l'immunité de qui ? Si on ne connaît pas les problèmes en détail, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Oui, merci beaucoup Joseph au micro. On peut revoir cela. Il y a une question qui était véritablement un petit peu bizarre. Je crois qu'on devrait l'ignorer totalement. Oui. Comment interpréter en effet l'immunité ? C'était une question qu'il ne faut pas souligner. C'est une question un petit peu séparée et qui n'avait qu'un rapport assez distant par rapport au thème que nous traitons actuellement. Daniel, vous voulez intervenir ou pas ? Donc, vous êtes parti de la table, d'ailleurs. Donc, nous allons maintenant avoir l'intervention de Jadang. Je soutiens tout à fait cela. On n'a pas besoin de plus de clarification pour ces définitions, pour les définitions des rôles. Je crois que il y a eu beaucoup d'arguments sur les rôles des gouvernements dans le modèle multipartite. Et c'est difficile de définir ces rôles d'acteurs multipartites. Donc un autre commentaire. comment s'assurer que la communauté comprend bien la proposition actuelle en ce qui concerne les procédures IANA. Donc c'est cela qui m'inquiète un petit peu, le rôle du gouvernement américain. Il faut que ça soit absolument bien compris, le contrat avec VeriSign également. Je crois qu'il faut clarifier les choses à ce niveau un petit peu. Je crois que ce problème est en rapport avec les fonctions de la zone racine, dont je ne crois pas qu'on doit régler cela plus avant dans cette section du document. Je crois que cela dépend, Xiang Dong au micro, ce n'est pas la fonction IANA qui est un problème. Oui, d'accord, mais on a déjà beaucoup parlé du fait que cela n'était pas inclus dans nos attributions et que c'était une piste de travail parallèle. Milton a clarifié cela avec les pistes de travail parallèles. Ça fera partie de notre document, mais pas à ce point-là. C'est pour ça que je ne veux pas en parler maintenant, pour ne pas prêter à confusion, pour rester précisément sur ce que nous devons traiter sur la transition NTI, parce qu'on ne nous a pas demandé de travailler là-dessus. Mais ça fera partie du document à un autre endroit. Donc, je crois qu'après avoir vu les commentaires de Milton, on pourra le placer ailleurs, ce point. Donc je vais essayer de résumer un petit peu le dernier point de la conversation, Joe au micro, et je crois que Elissa a gagné. Parce qu'il me semble que c'est une conclusion correcte. On n'est pas satisfait à 100%, mais on est arrivé à un niveau très élevé de satisfaction. Donc ça, c'est véritablement ce que ça veut dire, le consensus. Donc, on va regarder la partie 0. On va voir s'il y a un endroit où nous devons clarifier le rôle des gouvernements comme participants égaux au même niveau que les autres dans le cadre de l'inclusion. Quelque chose de factuel disant que les gouvernements sont des parties prenantes et qu'ils sont les bienvenus pour participer au processus. Et on va répondre à cette question de la manière la plus étroite possible. Si cela vous convient, Alissa, vous voulez mettre une note en bas de page à votre propre suggestion? Eh bien, j'aimerais revenir à la proposition, Alissa au micro, pour voir où les éléments individuels sont mentionnés. C'est ce qu'on peut faire, hein. On prend en compte ce que dit notre proposition et je crois que les paramètres de protocole ne parlent pas de cela parce que on fait référence au processus IETF, mais ce que je suggérerais, c'est que nous reflétions directement ce qui se trouve dans la proposition, par exemple, de la communauté des noms et que on ne fasse pas de paraphrase, mais que l'on cite peut-être directement ce qui est dit. Milton, vous avez levé la main. Milton Mueller. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Chaudang. Il me semble que ce n'est pas tout à fait exact de mettre cela uniquement pour la maintenance de la zone racine en BA. En BA, je vois qu'il y a des personnes qui sont inquiets du rôle du gouvernement américain. Notre conclusion, c'est que il n'y a pas d'ambiguïté maintenant à ce sujet. Donc, je crois que ça ne poserait pas de problème que dans notre résumé, nous disions cela. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que Chandong ne parlait pas seulement de la maintenance de la zone racine, mais de la perception de la domination du gouvernement américain. Certaines personnes sont encore inquiètes au niveau de la juridiction. Mais je crois que cela défait un petit peu les critères. Oui, on parlait du contrat VeriSign, l'élément. Oui, j'entends. Oui. Oui. Je veux être bien compris la prochaine fois, dit Xandang. Joe Milton, c'est bon? Donc, dernier point sur l'ouverture et les attentes. Joe, au micro. Donc, je crois qu'on a déjà parlé un petit peu de cela. Je vais décider de réécrire cela. C'est une action que nous prendrons. Et je mettrai en jaune, je surlignerai en jaune les thèmes pour référence croisée entre les différentes propositions. Donc, cela nous permettra de ne pas réinventer la roue. Je ferai circuler ce document à l'avance, avant notre conférence de mercredi, conférence téléphonique. Et donc, n'hésitez pas à corriger le texte, à me faire savoir ce que vous voulez voir dans ce texte, et j'essaierai de chercher les parties de la proposition qui ont trait à ces différents thèmes. Donc certains d'entre vous connaissent beaucoup mieux ces documents que moi. Merci de votre aide et de votre soutien dans ce travail que nous devons effectuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous restons en temps et en heure et nous poursuivons notre travail. Alicia Cooper, merci Joe. J'ai deux questions. Une, est-ce que vous êtes prêt à faire la même tâche de séparer, comme on l'a demandé à Hamilton, de séparer ce que l'on connaît dans la partie 0 et... Il me semble que c'est une bonne base pour le début du document de résumé. Est-ce que vous pouvez faire des extraits, avoir des extraits, extraire des textes qui devraient appartenir plus logiquement à la partie 0, si vous pensez que c'est possible, hein? Qu'en pensez-vous, Joe? Je ne sais pas exactement s'il y a beaucoup que l'on puisse mettre à ce niveau dans la partie 0. Mais il y a certains points qui devraient être en partie zéro, mais ça ne vient pas de cette partie. Mais je vais réfléchir à cela et voir ce que je peux faire avec ce document. Alicia Cooper, autre question. Étant donné que vous avez commencé ce travail, est-ce que vous pouvez poursuivre avec, si vous pourriez être l'éditeur, le rédacteur et correcteur. Moi, je pourrais être co-correcteur, parce que il y a des problèmes techniques qui me dépassent. Donc, donnez-moi un partenaire qui connaisse bien les aspects techniques, et là, je pourrais faire le travail. Merci beaucoup, on va réfléchir durant le déjeuner, et nous reviendrons vers vous, Alicia Cooper au micro. Nous allons maintenant passer au CCTLD, aux questions de CCTLD, et nous allons passer la parole à Wolf Ulrich qui va donc nous parler des CCTLD. Merci beaucoup, Wolf Ulrich, au micro. Oui, j'ai quelques chiffres à vous présenter, quelques statistiques que nous allons mettre à l'écran pour les CCTLD, les problèmes de CCTLD. 17 commentaires en tout. Et la plupart d'entre eux proviennent des gérants des CCTLD, des organisations représentant les CCTLD. Et un commentaire provenait du conseil CCNSO, de la CCNSO. Et donc voilà la représentation des commentaires que nous avons reçus. Un commentaire sur les CCTLD. eh bien, était relativement hostile. Je n'ai pas vu d'autres commentaires sur les 157 qui arrivaient à ce niveau d'attente. Il y a des gens qui exprimaient un désaccord, mais il faut dire qu'il y avait un commentaire qui était carrément hostile. Donc, les commentaires que vous voyez sur cette diapositive qui est à l'écran, je vais les passer en revue. Il y avait un domaine en rapport avec un point général, un travail qui se continue avec plusieurs groupes en rapport avec les CCTLD. Ce que cela signifie, c'est que les textes tels qu'ils sont dans le rapport ne sont plus valides parce que c'est un travail qui se poursuit. Et parfois, ces textes sont devenus obsolètes. C'est donc un point à prendre en compte par nous tous. Lorsque nous allons continuer à travailler notre proposition, nous devons mettre à jour le texte parce que ce sont des documents vivants qui vieillissent. Il y a un développement de différents points de vue qui se fait. Par exemple, pour A1, un grand nombre de commentaires tournaient autour de la question en rapport avec le développement des politiques dans le secteur des CCTLD en référence au document ICP1, il y a des préoccupations et des inquiétudes dans les commentaires indiquant que cette référence au ICP1 devrait peut-être ne pas être mentionné dans la proposition. Les commentateurs requièrent que cette référence soit retirée. Et je me demande si c'est toujours un problème ou pas, parce que je n'ai pas pu bien comprendre pourquoi cela n'a pas été débattu. Ou pourquoi on n'a pas encore trouvé une solution au CWG. Mais peut-être qu'il y a une explication à ce sujet. Un autre point, un petit peu prêt à la controverse, un contentieux possible, c'est le système d'appel, les mécanismes d'appel. Les recours. Donc, les commentateurs, je crois, n'ont pas bien vu que les mécanismes de recours sont déjà dans la proposition pour la délégation, redélégation, et certains disent que c'est un problème de PDP, processus de développement de politique, et c'est la question qui se pose, que faire jusqu'à ce que ces PDP soient disponibles, quels seront les mécanismes de recours, d'appel. Je crois que c'est une question qui est toujours ouverte, qui se pose toujours, et qui peut prêter à la controverse. Donc, il y a un commentaire en ce qui concerne lorsque nous aurons les fonctions IANA, il y aura une équipe d'évaluation à l'avenir des fonctions IANA. Vous le savez, il y a une proposition du CWG. Il va voir l'établissement d'une commission de ce type, l'IFR. Et il y a des chiffres qui sont indiqués ici sur le nombre de membres qui devraient être à cette IFR. Donc ça, c'est le point 1-1-1. Donc un membre, et là, un membre qui ne soit pas de la CNSO, CCTLD, donc ça c'est une option. Ça devrait être en option plutôt qu'une obligation, c'est une proposition que l'on effectue ce changement à l'IFR. Mais je crois qu'il faut être plus clair dans notre proposition à ce sujet et demander peut-être des explications. Le D, le point D, reflète la question de la transition. C'était un commentaire assez dur que nous avons vu et que j'ai même qualifié de hostile. Ce qui a été dit, c'est que c'est un point assez général, ce n'est pas bien expliqué. C'est un commentaire général disant que avec la transition, dans le cadre de cette proposition, cela rendrait les positions des responsables CCTLD beaucoup plus difficiles, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc, il n'y avait pas d'explication de données. C'était une déclaration très abrupte qui avait été effectuée.
Last point. Le dernier point qui a été évoqué également dans d'autres environnements, c'est les SLE qui devraient être mis en place avant la transition. Les commentaires visent à ce qu'il y ait une référence à ce sujet dans les propositions. Ce point n'est pas controversé. Il s'agit plutôt d'un travail qui est en cours. Une solution devrait être trouvée. Et la question est de savoir comment faire référence à cette question ici, dans la proposition. Ceci dit, ma conclusion, c'est que la question de l'ICP1 et la question du PDP, la proposition d'un mécanisme de recours dans la proposition ici, seraient les points qui devraient faire l'objet d'un débat plus en profondeur. Bien entendu, n'hésitez pas à lever la main sur Adobe Connect si vous voulez, si vous avez des commentaires. Ma question, tout d'abord, est la suivante. À votre avis, est-ce que vous pensez que tout a été abordé? Y a-t-il des points qui manquent? Y a-t-il d'autres questions à ajouter? Je vois Martin Boyle. Martin Boyle prend la parole. Merci beaucoup, Wolf Woolrich. C'est une analyse très complète. Il y a eu des questions concernant la juridiction que l'on a vu apparaître, mais nous allons les traiter séparément. À mon avis, votre résumé reflète ce que j'ai pu voir dans les commentaires. En ce qui concerne les 5 titres que vous avez élaboré, il y en a par rapport auxquels il faudrait rentrer dans les détails. Le point 4A, on indique là-bas une certaine difficulté pour interpréter le texte du rapport du CWG. Je me demande alors si l'ICG ne devrait-il pas dire que nous avons reçu ces commentaires et que nous souhaiterions que le CWG confirme que ces commentaires sont corrects. Pour le point B, je pense que vous avez raison quand vous avez dit qu'il s'agit d'une question assez controversée. Il s'agit du processus de révision indépendante et du mécanisme de recours. Il y a différents points de vue par rapport à ce mécanisme de recours qui devrait être mis en place pour la délégation et la redélégation de CCTLD. Un processus d'élaboration de politique prend du temps. Je dois reconnaître qu'il y aura un certain nombre de CCTLD qui seraient très inquiets si toute action affectant un pays était reportée en raison de ce processus d'élaboration de politique qui n'est pas en place. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une action qui devrait être mise en place après la transition. Le point C, la révision des fonctions d'IANA, IFR. Un texte a été rédigé et je comprends qu'il y a un nombre très petit de CCTL qui ne font pas partie de la CCNSO, mais qui font partie de l'environnement. Et à chaque fois qu'il y a une révision des fonctions d'IANA, la question se pose de savoir si ces CCTLD pourraient participer ou pas. C'est un point de précision qui devrait peut-être être pris en compte. Mais je ne suis pas tout à fait sûre qu'il s'agit d'un problème grave. On pourrait suggérer un texte qui pourrait dire, dans la mesure de possible, il devrait y avoir des CCTLD qui n'appartiennent pas à la CCNSO. En ce qui concerne le point D, il y a bien sûr des CCTLD qui pourront dire que cette transition pourrait améliorer aussi la position des gestionnaires des CCTLD. Je pense que c'est une question de point de vue. Je dirais uniquement qu'il y a un CCTLD qui a fait cette remarque. En ce qui concerne le point E, les attentes de niveau de service, le travail est en cours. Nous sommes tous conscients du fait qu'il faut avoir des attentes de niveau de service en place au moment de la transition. Ainsi qu'un processus pour adopter et modifier des attentes de niveau de service à l'avenir. Nous sommes tous conscients de cela et nous savons qu'il y a un travail en cours. Je ne sais pas si on devrait rentrer dans le détail par rapport à cette question. Je pense qu'il faudrait plutôt dire que nous sommes conscients qu'un travail est en cours par rapport à cette question. Wolf Rich, merci beaucoup. En ce qui concerne le point B, votre conclusion, c'est qu'il s'agit d'un point qui devrait être mis en place après la transition. C'est votre suggestion? Est-ce que j'ai bien compris? Martin Boyle au micro. si je ne m'abuse, la CNSO sait qu'un processus d'élaboration de politique doit être mis en place. Et vu la date de la transition, je pense qu'on n'aura pas fini ce PDP à temps. Je ne suis pas sûre. Je pense que Keith pourrait nous donner davantage de précisions par rapport à cela. Keith Davidson prend la parole. Merci Ulrich pour cette présentation si complète. En ce qui concerne l'ICP1, il est important de noter que le CWG à l'époque essayait de progresser assez vite en termes d'interprétation, du cadre d'interprétation, pardon, la mise en œuvre du cadre d'interprétation. Dans les points d'orientation, et que tout cela n'était pas applicable aux politiques en cours. À l'époque, le CWG savait uniquement qu'il y avait une version préliminaire du cadre d'interprétation, qu'il y avait un travail en cours, mais ensuite, le cadre d'interprétation a été accepté par le conseil d'administration de l'ICANN et ce processus a été mis en place. Il existe donc maintenant une catégorisation claire que l'ICP1 ne tenait pas en compte, ne prenait pas en compte. Je pense que avec ce nouveau cadre d'interprétation qui a été adopté, il serait approprié de réexaminer le travail et réexaminer donc cette question. En ce qui concerne le point B, c'est une question assez compliquée lorsque l'on parle d'un mécanisme de recours. Il y a eu un RFC 1591 qui parlait de la question de la délégation, de la redélégation, mais il n'y a jamais eu de mécanisme de recours. Je pense que ça n'existera pas à court terme. Ce mécanisme pourrait être une instance importante pour les partis et les CCTLD pourraient se mettre d'accord pour que cela existe. Mais je ne suis pas sûre que les gouvernements souhaiteraient avoir des problèmes par rapport à la délégation ou redélégation des CCTLD qui soient traités sous la loi américaine au lieu des lois des pays. C'est donc un mécanisme qui pourrait être appliqué, mais je ne sais pas si cela pourrait être appliqué partout. La CCNSO et le conseil de la CCNSO reconnaissent que il y a un travail urgent à faire en termes de politique par rapport à ce sujet. Et d'ici Dublin, la création d'un groupe de travail est envisagée pour travailler sur la question des mécanismes de recours. Il y a également un travail à prévoir par rapport au retrait des CCTLD. La CCNSO est consciente de ses obligations. En ce qui concerne l'accord du conseil d'administration, les délégations et les redélégations ne sont pas considérées comme un problèmes pouvant avoir un impact sur la sécurité et la stabilité. Et cela pourrait avoir un impact sur le nombre de délégations ou redélégations. Pour ce qui est du point C, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires de Martin, en ce sens qu'il n'est pas toujours possible de dire que cela est toujours possible. En ce qui concerne le point D, il y a seulement un CCTLD qui était contre la transition. Mais je ne pense pas que cela reflète le consensus, car il y a eu un soutien assez important à la transition de la part de tous les CCTLD qui représentent plus de 40 CCTLD. Ce n'est pas une vision unanime, mais il y a une vision de consensus par rapport à la transition. En ce qui concerne le dernier point, le E, ce travail est en cours. Je pense qu'il serait approprié, puisque la proposition des numéros fait référence à ces SLE, il serait peut-être approprié que l'on puisse avoir de manière formelle cela dans notre proposition présentée au gouvernement des États-Unis. Ulrich, merci Keith. Je vois que la discussion va se focaliser plus ou moins autour du point ou sur le point B. Car les autres points pourraient être résolus assez facilement. J'aimerais voir le point de vue de Cavus, Elissa, Elise, Alissa en premier. Alissa Cooper prend la parole. Merci. Je suis d'accord avec vous, Wolf Ulrich. Je voudrais savoir si les personnes qui ont participé au CWG pourraient nous dire un petit peu quelle a été la discussion par rapport à cette question et si cette discussion a été faite en profondeur. Martin Boyle, au micro. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, sans qu'il y ait eu une réponse définitive ou une résolution définitive. Tout comme Keith l'a indiqué, il y a des inquiétudes par rapport à ce qui pourrait se passer s'il y avait un processus de réexamen ou de révision qui serait fait en dehors du pays. Quelles seraient donc les implications pour les différents pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations, bien entendu, par rapport à la façon dont cela devrait être abordé. Dans un premier moment, il y a eu une enquête. Et à partir des résultats de cette enquête qui a été menée auprès des gestionnaires CCTLD, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'orientation claire par rapport à la façon dont cette question serait traitée à l'avenir. Alissa Cooper, merci beaucoup. Je pense qu'en ce qui concerne le point E, nous allons revenir sur cette question plus tard aujourd'hui, quand on parlera de l'exhaustivité de la proposition. Et à ce moment-là, nous pourrons aborder la question des SLE. Wolf Ulrich, au micro. Cavus. Cavus a resté au micro. La plupart des points que je voulais aborder ont été abordés par ceux qui m'ont précédé, Keith Davidson et Martin Boyle. par rapport aux points C, D et E. En ce qui concerne le point B, je pense que la question est assez claire dans le paragraphe 8 de la proposition du CWG, page 268. Il est dit que la délégation et la redélégation de CCTLD dans la lettre du 15 avril 2015, il est indiqué que tout mécanisme de recours développé par le CCWG ne devrait pas couvrir la délégation, redélégation des CCTLD dans la mesure où ceux-ci doivent être élaborés par la communauté des CCTLD à travers des processus appropriés, tels que demandé par le CCWG. La question liée aux délégations, à la délégation, redélégation ou révocation de CCTLD seront exclues jusqu'à ce que la communauté des CCTLD, en coordination avec d'autres parties, aura développé des mécanismes de recours pertinents. Voilà ce qui est dit dans la proposition. Nous ne pouvons rien faire. Wolf Ulrich, au micro. Vous parlez du CCW. Je parle du CCWG, dit Cavus. C'est le paragraphe 8, page 268. Wolf Ulrich, peut-être que nos collègues du CCWG pourraient m'aider. Si j'ai bien compris, c'est une question qui est exclue de la proposition du CCWG. Mais puisqu'une référence a été faite à ce PDP qui est prévu, le commentaire vient des CCTLD pour que l'on réfléchisse à la question de savoir ce qui se passerait si la transition a lieu et qu'il n'y a pas de PDP en place. Et donc, la fonction de révision, qu'est-ce qui se passerait avec la fonction de révision à ce moment-là ? Cavus a resté. Je pense que la seule chose que l'on peut faire, c'est indiquer que cette question a été soulevée. On ne peut pas faire autre chose.
Très bien. Eh bien, Milton, il y a d'autres points que vous vouliez soulever ? On va donner la parole à Milton. Oui, si Kiss va répondre directement à cela, je crois qu'il devrait aller en premier, s'exprimer en premier. Donc Kiss, Rizak, intervenez, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. Et je voulais rebondir sur un point que Cavus avait soulevé. Donc, Milton, allez-y. Est-ce que Élise voulait intervenir, je crois ? Élise Guérich, oui. C'est un point de clarification et une petite inquiétude. Peut-être que j'ai mal compris. J'espère avoir mal compris. J'ai cru que vous aviez dit que, tandis que le processus PDP pour les recours se poursuit. Vous cherchez avec un accord avec le conseil d'administration de l'ICANN pour une délégation, pour les délégations et redélégations. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris ? Oui. Mais ça n'a pas un impact direct sur la stabilité et la sécurité de l'Internet. C'est décision de redélégation, de délégation et de redélégation. Donc, il y a eu un nombre d'exemples. Par exemple, les États-Unis, par exemple, les question de retirer de la racine YANA un CCTLD, par exemple. C'était un CCTLD qui n'était pas peuplé, il n'y avait pas de politique pour le conseil d'administration, mais en fait, une décision a été prise. Et ce n'était pas un problème de sécurité et de stabilité de l'Internet. Ça serait mieux de laisser à plus tard ces décisions une fois que l'on a une politique en place. Élise Guirich, je suis un petit peu inquiet. Je crois qu'il faut parler au CCWG et de cela, le signaler au CCWG. En tant qu'opérateur de la fonction IANA, eh bien, ça nous met dans une situation difficile. On doit décider ce qui est important, ce qui n'est pas important. Quel pays est important pour la délégation, quel pays n'est pas important pour la délégation. Donc vous voyez dans quelle situation vous nous mettez, cela me préoccupe. Keith ? Oui, merci. Je crois que, en effet, cela me met mal à l'aise au niveau des décisions du CCNSO. Je crois que on aurait besoin de dialoguer plus avant avec l'IANA. Donc je vais retirer cela et discuter avec l'IANA de ce point avant Dublin. Oui, merci Élise et Keith. Je crois que, Monsieur Ulrich au micro, je crois que c'est quelque chose que nous devons en effet signaler. C'est important d'y revenir également. Donc, Milton, oui, un point mineur. Je lis ces commentaires et j'étais impressionné par ce commentaire qui est le C.C. Ça faisait sens, je crois, pour l'IFR au niveau du nombre de membres. Je crois qu'on l'avait peut-être mal considéré auparavant. Donc, on devrait avoir des membres n'étant pas du CCNSO, mais du CCTL, du domaine CCTL, de représenter au niveau de l'IFR. Donc, on parle de deux, peut-être trois personnes qui font toujours cela. Est-ce que ce serait possible de dire, eh bien, ça, c'est une bonne suggestion. Est-ce que le CWG peut modifier un petit peu sa proposition, changer un petit peu sa proposition pour prendre cela en compte? C'est possible? Oui? Oui, analyser le commentaire? Oui, moi, je soutiendrai cela. Oui, d'accord. Ulrich au micro. J'ai Alissa, Keith et Daniel. Et ce sera tout. Donc, Alissa... Pour revenir au point B, il me semble que notre travail, notre tâche, c'est de poursuivre une conversation et je crois que ça ne fait pas toujours partie de notre travail, de notre mandat en tant qu'ICG. Je crois qu'il faut qu'on le dise parfois, que ce n'est pas dans nos attributions. On ne peut pas prendre de mesures. Je ne sais pas ce qu'en pense Keith et d'autres personnes. En tant qu'ICG, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut déclarer dans de telles situations? À mon avis, il faut qu'on dise quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, pour revenir à ce que disait Milton. Ce que nous avons fait ces derniers jours, c'est de travailler sur beaucoup de commentaires. On disait, oui, ça n'a pas été soutenu par de nombreuses personnes. Ce commentaire n'est pas très avancé. On n'a pas besoin de statuer dessus. En fait, nous allons revenir au CWG et parler du point A. Et il est possible que nous allons obtenir des révisions de la part du CWG, un texte révisé sur la base de cela. Donc, si vous pensez que le point C également pourrait être... traité à nouveau par le CWG, faites-le nous savoir. Milton, au micro, ce n'est pas le genre de commentaire où l'on dit « Ah, est-ce qu'il y a un consensus ? Il y a un point de valide de soulever ? C'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on en fait ?» Wolf Ulrich, donnant la parole à Keith Davidson. Et pour revenir sur ce que disait Cavus, je crois que la question qu'il a soulevée, c'est qu'est-ce qui se passerait si il n'y a pas de PDP. À un moment, il y a une délégation qui se fait alors qu'il n'y a pas de PDP. Donc je crois que la réponse à cela, c'est que la NTIA nous indique ne jamais s'engager dans les décisions de délégation et de redélégation, qu'ils autorisent tout simplement les changements, après s'être assuré que l'ICANN se soit bien chargé de la question. Pour le moment, il n'y a pas de procédure de recours. Donc, il n'y a pas d'historique de processus de recours. Et certains disent, à l'avenir, on n'en a pas besoin non plus. Alissa, par rapport à ce que vous avez dit, je crois qu'il faut reconnaître que dans la partie zéro, qu'il y a une grande difficulté. C'est une cible qui bouge constamment. C'est une évolution constante auquel nous faisons face. Et cela va vite en plus. Donc la proposition pourra être assez rapidement prise en compte. Et il me semble que c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Wolf Ulrich, Kiss et puis Daniel. Kiss, vous avez la parole? Non? Non, c'est Daniel. Daniel au micro, Daniel Kernberg. Je voulais soulever un point, une question de principe. Nous allons avoir des commentaires. Pour les communautés opérationnelles, au niveau de certains termes, il faut que nos attentes soient très claires. Lorsque l'on reçoit de nouveaux textes, des textes corrigés, des révisions, et ça c'est valide pour tous les commentaires que nous avons envoyés. C'est notre travail avec les communautés opérationnelles, donc je crois que quelque part, il faudrait que ça soit clairement indiqué. Et aujourd'hui, nous devrions en parler et par la suite sur l'Internet. Je vais amplifier un petit peu ce que je vais dire, ce que j'essaye d'expliquer. Si, par exemple, nous prenons la proposition intéressante C, ici, le CWG arrive à un consensus et d'accord. On fait ça, d'accord, très bien, nous communique cela, indique un nouveau texte, voilà, changer ces termes, utiliser ces termes. La question qui se pose, est-ce qu'on va le faire ou pas? Est-ce que l'on va changer notre produit que nous allons délivrer? Est-ce qu'on a besoin de plus de processus? Est-ce qu'on a besoin d'une consultation avec les autres communautés opérationnelles? Est-ce qu'on a besoin d'un commentaire public pour ce faire? Donc, je crois que c'est tout à fait impératif que nous indiquions, lorsque l'on pose ces questions à la OC, il faut indiquer un point de vue solide, communiquer d'une manière ou d'une autre ce qui va se passer. Il faut qu'ils sachent sans ambiguïté que s'ils changent cela, eh bien, il se peut qu'on considère qu'un cycle de commentaires publics soit nécessaire. Ou bien, si nous choisissons cette option, eh bien, on n'a pas besoin d'un processus supplémentaire. Il me semble qu'on a besoin de donner des directives un petit peu. Et j'aimerais encore plus amplifier mon propos. Si je me mets dans les côtés des communautés opérationnelles, disons, oui, on envoie ça à l'ICG, on est arrivé à un consensus, et maintenant, il y a une attente encore de 2 mois, parce que il y a des corrections nécessaires. Il faut que ça soit clair. Il y a des questions de calendrier également qui se posent. Et il me semble qu'on doit en parler très clairement avant de suggérer des changements au CESE. C'est très important. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. C'est noté, Wolf Ulbrich au micro. Martine. Oui, merci beaucoup, Wolf. Merci de votre patience. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Daniel. Et je crois que Daniel avait tout à fait raison dans ses propos. Mais je demande, et il s'agit simplement d'une question au groupe, si nous pouvons peut-être prendre le point de vue sur des points qui sont des points de correction mineurs et d'autres qui sont en rapport avec la section A de la diapositive. Il y a des changements, des petits importants. Ce que vous nous demandez de faire, c'est de clarifier s'il s'agit, dans le cas du point C par exemple, c'est un point de vue absolu, ou bien s'ils acceptent que c'est un commentaire dans le cadre de A qui gère des problèmes actuels dans le texte et des inexactitudes dans le texte. Donc j'essaie de trouver l'équilibre un petit peu pour identifier cela. Cela leur permettrait de progresser également, d'avancer, sans avoir à repartir vers les communautés et d'avoir un long processus. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Wolf Ulbrich. Oui, le point A. Donc c'est un travail, comme je l'ai dit, qui se poursuit. Le temps s'écoule, il y a des propositions, et on repousse un petit peu plus tard, mais quelque chose va se passer, il va y avoir des mises à jour. L'autre point, c'est que, si j'ai bien compris, Daniel nous disait qu'il faut être prudent lorsque l'on fait des suggestions concernant l'essence des propositions spécifiques déjà effectuées et les critères également. Donc vous vouliez effectuer un commentaire à ce sujet ? Oui, je crois que ça doit être au cas par cas que l'on prenne une décision. Élise Guérich au micro. Je crois que au niveau du point, le point A, pardon, Elisa au micro, Cooper. Je crois que le point A, c'est un point simplement, on peut changer un petit peu le texte et ça ne change pas la teneur du texte. C'est un changement éditorial. On peut faire la même chose pour C, il me semble. Mais on va recevoir plus de textes de ce type avec l'équipe PTI, par exemple. Donc, je ne veux pas décider en avance, à l'avance, poser des questions qui auraient des conséquences importantes sur la proposition, qui change la proposition. Mais avant d'envoyer une question, je crois que ça doit être très très clair, au cas par cas. Et je ne crois pas que je crois pas qu'on en aurait d'autres. Je crois que ça ne viendra pas du PTI non plus. Mais je ne veux pas conclure avant l'heure. Donc, pour ces deux, on peut d'une manière très explicite et finaliser facilement cela avec des textes corrigés qui seront obtenus et que nous pourrons mettre dans la proposition. Mais lorsque l'on parle, Wolf Ulbrich, lorsque l'on parle de questions de principe, ça peut être des points généraux dont on parle, des questions de principe. C'est pour cela qu'il y a des questions qui sont spécifiquement en rapport avec ces points. Marie ? Non, Daniel ? Donc, je suis d'accord, on doit le faire à chaque fois que l'on, individuellement, à chaque fois que l'on renvoie quelque chose. Moi, je crois que on doit être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les options. S'il y a un endroit où on a déjà débattu de cela, très bien, mais il faut s'engager à renvoyer au OC certains points. Ça me satisferait, mais j'aimerais qu'on écoute plus de personnes autour de la table pour que l'on voit un peu les catégories, les types de catégories de changements, de modifications que nous suggérons ou que nous acceptons. Là, on peut prendre une décision pour faire rentrer ces modifications dans des catégories. Je ne dis pas que nous devons ou ne devrions pas suggérer des changements. Ça, c'est un autre type de débat. Alyssa Cooper, moi, je crois qu'il y a 4 catégories. Dites-moi si j'ai raison. 1. On envoie un commentaire pour information. Pas de mesure à prendre. 2. Point de clarification. On demande une clarification. Donc, pas de changement au texte, mais, comme l'a dit Milton, sur la zone racine, sur la ZM, on ne comprend pas, on veut clarifier les choses. 3. Comme le point A ici, on a reçu des commentaires, on suggère que la communauté se penche là-dessus, ils peuvent mettre à jour le texte, on peut l'incorporer à la proposition, et, tant que ça ne prend pas trop de retard. Et quatrième catégorie, on ne l'a pas encore vu, on leur renvoie un commentaire qui leur demande des changements substantiels à leur proposition, et s'ils sont extrêmement substantiels, là on aura besoin de commentaires publics, une période de commentaires publics. Vous voyez, 4 catégories, ça vous va ? Merci beaucoup, Wolf au micro. Daniel, vous voulez toujours dire quelque chose ? Très bien, eh bien, je vais essayer maintenant de résumer un petit peu la situation que nous avons devant nous en ce qui concerne ces points. Je vois sous A besoin de clarification. A1, ça va, pas de problème. A2, point de clarification. Donc, en ce qui concerne l'interprétation de cette politique, on voudrait avoir une clarification de l'AOC d'où provient ce commentaire et si c'est le cas, cette communauté opérationnelle va agir, peut-être corriger le texte. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc on reviendra à B. Hein. Voyons C. Le point C. C'est également une question que nous pouvons référer à la communauté en disant qu'il y a un commentaire d'effectuer. Est-ce que vous pouvez prendre ce point en considération et revenir vers nous avec votre décision en tant que OC en ce qui concerne le point D? Il n'y a pas de commentaires supplémentaires. Et le point E. Donc là, on a fait référence à l'exhaustivité et on va y revenir sur cette question d'exhaustivité. Je reviens à B maintenant, délégation, redélégation. C'est exact. Il le faut absolument signaler et attirer l'attention là-dessus. Il semble que ce soit un point qui soit encore débattu. Et à l'ICG, on n'est pas en position de dire, ce n'est pas notre rôle de dire, il faut aller dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Mais on doit simplement signaler le fait qu'il se peut qu'il y ait un manquement au niveau de l'environnement de PDP, de développement de politique. Et il n'y a pas de proposition spécifique de notre part pour aller d'un côté ou d'un autre. Il faut donc renvoyer cela à la communauté, qu'ils prennent cela en compte, qu'ils retravaillent et qu'ils trouvent une solution. Voilà ce que je proposerai. Voilà un petit peu le résumé de la situation et de notre débat. J'aimerais maintenant donner la parole à Cavus.
Cavus prend la parole. Je pense que nous ne devrions pas dire qu'il y a un manque de quoi que ce soit. Je pense qu'il faudrait juste dire... Il ne faut pas laisser cette impression qu'il pourrait y avoir un retard pour le CWG. En ce qui concerne le point C, je pense que nous ne devrions pas dire qu'il faut envoyer ça aux opérations, aux communautés opérationnelles. Il y a eu un commentaire là-dessus. C'est une question qui a été débattue en profondeur par les communautés. Je ne pense pas que l'on doive demander quoi que ce soit aux communautés opérationnelles. C'est juste un commentaire qui a été fait. Merci, Cavus. Alissa dit Wolf Ulrich. Alissa Cooper, nous devrions conclure nos discussions par rapport à ce sujet, car le moment de déjeuner est venu. Pourrions-nous faire cela? Cavus a changé un petit peu ce que j'allais dire. Je pensais qu'on était d'accord pour envoyer une note au CWG concernant A et C. Et je demanderai... Je demanderai à un volontaire de rédiger un texte. Keith. Vous pensiez que j'allais dire votre nom, mais j'ai dit Keith. Keith Davidson. Je me sens un petit peu en conflit. Alissa Cooper. Alors, Martin Ball, pourriez-vous être chargé de rédiger un texte par rapport aux points A et C? Mais je n'ai pas tout à fait compris ce que l'on veut faire avec le point B. Je vais demander à Keith de s'occuper du point B. Keith, qu'est-ce que vous en pensez? Que devrait-on faire par rapport au point B? Keith Davidson, au micro. Par rapport au point B, il y a une question qui est soulevée et que nous devrions refléter ou indiquer pour que le CWG puisse clarifier cette question. Excusez-moi, je pense à haute voix. C'est plus compliqué que ça parce que cela fait partie du travail du CCWG aussi. Donc je me demande comment il faut traiter cette question. Alissa Cooper prend la parole. On pourrait ne rien faire aussi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui souhaitent prendre la parole. Keith Bridges. Alyssa Cooper. Je vais poser la question, vous poser la question autrement. Il semblerait qu'on pourrait dire quelque chose par rapport à cela dans notre document de synthèse, à savoir, nous avons reçu un commentaire par rapport à cela, etc. Je ne pense pas que l'on doive aborder cela ailleurs. Peut-être qu'on pourrait donc indiquer quelque chose dans notre document de synthèse, puisque, comme indique à vous, cela fait partie du travail du CCWG. Peut-être que l'on pourrait donc aborder cette question dans notre document de synthèse. Y a-t-il des objections par rapport à cela ? Cavus, Marie et puis Martin. Cavus, au micro. Je n'ai pas d'objection par rapport à la proposition que vous avez faite en ce qui concerne le point B. Je pense que c'est une question qui est en cours de discussion au sein du CCWG. Le CCWG a inclus cette question dans son document. Il n'y a aucune mesure à prendre de notre part. Marie Dumas au micro. Pendant le processus, il y a eu une discussion au sein des gestionnaires CCTLD par rapport à cette question de la délégation, la redélégation et par rapport au PDP. Il a été décidé de ne pas inclure cette question dans le document du CWG. Si cette question est traitée par le CCWG, je pense que je suis d'accord pour inclure cette question dans notre document de synthèse. Il n'y a pas besoin de poser la question au CCWG. Alyssa Cooper donne la parole à Martin Boyle. Martin Boyle au micro. Je suis d'accord avec votre approche, mais je tiens à indiquer un point que Demi a soulevé dans la salle Adobe et que Keith a soulevé aussi, à savoir qu'il y a une action de la NTIA qui semblerait être en dehors de la portée de la transition. Et je pense que dans notre commentaire, on devrait indiquer que le développement de politique de la CCNSO s'occupera de cette question de politique à terme. Je pense que je suis d'accord avec l'approche que nous allons adopter, mais je pense qu'il serait approprié d'expliquer un petit peu pourquoi nous nous occupons de cette question. Merci. Alyssa Cooper donne la parole à Keith Davidson. C'est une solution très élégante. Merci, Martin. Keith Davidson dit Alyssa Cooper. Pouvez-vous vous occuper de rédiger donc quelque chose par rapport à ce point ? Merci. Le point B. Quelques phrases par rapport à cette question, Keith Davidson. Il y a un conflit, mais vous pouvez faire le point B, dit Alyssa Cooper. Et peut-être que Wolf Ulrich pourrait s'occuper de résumer le reste des points. Très bien. Nous allons déjeuner maintenant et reprendre nos activités à 1h40. Vous pouvez continuer à manger, bien entendu, mais nous allons reprendre nos activités à 1h40, c'est-à-dire dans 22 minutes. Merci.
Can you hear me?
Jean-Jacques Subrenat au micro. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais faire partie de la discussion par rapport au sujet que vous allez aborder pendant le déjeuner. Est-il possible que j'y participe à distance ? Alicia Cooper, oui. Merci beaucoup, dit Jean-Jacques Subrana. Alicia Cooper, nous allons reprendre donc nos discussions dans une vingtaine de minutes. Merci.